La Recherche Autrement, une collection de reportages à la découverte des recherches participatives en Bretagne. Les radios associatives adhérentes à la CoreLab vous font découvrir 8 projets soutenus par la région Bretagne dans le cadre des appels à projets Recherche et Société, visant à renforcer le dialogue entre les acteurs de la recherche et la société civile et ayant pour objectif de répondre à des problématiques sociales, culturelles, économiques ou encore environnementales. Entrez dans les coulisses des recherches participatives en Bretagne et appréhendez l'innovation sociale sous toutes ses formes.
Un tour de table avec les pays qui sont représentés.
Je m'appelle Nasir, je viens d'Afghanistan.
Je m'appelle Modasilek, je viens du Tchad.
Je m'appelle Ahmadia, je suis afghan.
Je m'appelle Mohamed, je suis marocain.
Je m'appelle Mohamed Nazir, je viens d'Afghanistan. Ça fait un an que je suis au BAM pour apprendre le français.
Moi, je m'appelle Frances et je travaille au sein de COPESCHEM, qui est une coopérative qui fait de la recherche en sciences sociales, donc plutôt dans le domaine de la jeunesse, et qui est basée à Rennes, au bâtiment à modeler.
Le bâtiment modélé a pris forme, on va dire, depuis fin 2021 et c'est une constellation d'associations pour essayer d'animer vraiment le quotidien des habitants du quartier de Cluny, vu que le quartier est un quartier dit prioritaire de la ville et c'est une occupation temporaire aussi qui va durer jusqu'à 2025. Moi, c'est Eric. Là, actuellement, je suis en stage pour le volet communication pour le bâtiment modélé.
Donc la recherche, ça s'est appelé Jeunes exilés en Bretagne. L'idée, c'était qu'on puisse approfondir la compréhension de quels sont les parcours des jeunes qui sont en situation d'exil. Et du coup, c'est particulièrement lié à l'activité qu'il y a au bâtiment à modeler, parce qu'il y a beaucoup de, à la fois, cours de français qui sont organisés par l'association d'ici ou d'ailleurs, et puis aussi d'autres, des activités sociales, culturelles, voilà, qui se passent dans le bâtiment. Et puis c'est aussi une prolongation de ce qu'avaient déjà fait COPESCHEM et le HESP sur l'exil, sachant qu'avant on avait plutôt travaillé sur les situations des personnes exilées de tout âge et par plein de prismes, à la fois les engagements bénévoles, les parcours des personnes et l'action publique, mais on ne s'était pas forcément intéressé spécifiquement aux enjeux des jeunes.
Donc c'est la suite du projet qu'évoquait Frances, qui s'appelait Covid Exil, qui était un projet de l'Agence nationale de recherche que Frances avait écrit pendant la crise du Covid. Moi, c'est Patricia, je suis sociologue, je travaille à l'École des hautes études en santé publique, plutôt sur les questions de jeunesse, personnes exilées, participation aussi, voilà. En fait, on se disait qu'il y avait quand même une question spécifique autour de la prise en charge des jeunes personnes exilées, notamment des jeunes de moins de 25 ans qui ne peuvent pas obtenir le RSA. Et donc, on s'était dit que ce serait vraiment intéressant d'aller plus loin. Donc, à la fin de Covid Exil, même un petit peu avant la fin, on s'était réunis et on avait commencé à réfléchir. On a déposé ce projet-là.
On peut peut-être déjà dire... quel est l'accompagnement existant des jeunes exilés dans la région Bretagne pour peut-être lever certaines idées reçues et concrètement, alors ça dépend déjà de l'âge, est-ce qu'on est mineur ou non ?
Alors ça, c'est un peu compliqué en fait parce que ça dépend de l'âge, mais ça dépend aussi de la situation administrative des personnes. Et en fait, ce qui nous semblait vraiment intéressant, c'est qu'on sait déjà que les jeunes de moins de 25 ans français ont plutôt tendance à être pas très bien pris en charge par les politiques sociales puisqu'ils n'ont pas le droit aux minima sociaux. Donc ils sont considérés comme des enfants. Il y a une politique de familialisation qui renforce les inégalités sociales. Donc il y a déjà ça. Et quand en plus on est jeune et exilé, c'est encore plus difficile en général. Et en fonction du statut administratif qu'on peut avoir, c'est d'autant plus difficile. Surtout si on est sans papier, surtout si on est débouté, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait regarder, c'était le cumul de difficultés en fait, de ces personnes-là. Et comment est-ce qu'elles font avec ça? Comment est-ce qu'elles créent des choix autour de ces questions-là?
On s'est dit qu'on voulait davantage travailler sur les jeunes. Et le deuxième élément, c'est aussi qu'on voulait sortir de Rennes. Et c'est pour ça qu'on a proposé de travailler avec Redon et Saint-Brieuc, et aussi Mordel. Mais nous, on n'était pas impliqués sur la partie de l'enquête à Mordel, donc c'est peut-être plus facile de parler davantage de Redon et Saint-Brieuc. À Redon, L'idée, c'était de repartir sur un travail qu'on avait déjà avec une association de jeunesse éducation populaire qui s'appelle la FEDE là-bas et qui a un lieu qui s'appelle le Parallèle.
C'est un espace d'expérimentation pour les jeunes de 18 à 30 ans. C'est possible pour eux de se retrouver pour y construire des projets, pour partager des moments de convivialité, pour se rencontrer et aussi pour se réorienter vers différentes structures de soins, d'accompagnement professionnel, d'études, etc.
Et donc, cette association-là se posait la question de l'accès de leur lieu, en fait, aux jeunes en situation d'exil. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des jeunes en situation d'exil sur le territoire, mais ils ne les voyaient pas forcément dans le lieu. Donc on a rencontré un étudiant que ça pouvait intéresser comme sujet de stage, et du coup on lui a proposé de travailler un peu à une enquête-action en fonction de ce que voulait faire l'asso là-bas, pour essayer d'organiser un peu des activités avec des jeunes exilés au sein du lieu, et en partenariat avec une association qui s'appelle l'AMICEP, qui est à Redon et donc qui est plus en lien aussi avec ces personnes exilées.
À Saint-Brieuc, on avait l'année précédente avec deux étudiants du master enfance-jeunesse et du master qui s'appelle recherche et expertise des sciences sociales du politique. On avait travaillé pour la fondation Abbé Pierre et on avait fait tout un panorama des associations intervenant dans le champ de l'hébergement hors Rennes, justement, en direction des personnes exilées. Et dans ce cadre-là, on avait été particulièrement bien reçus par une asso qui s'appelle ASTI à Saint-Brieuc. Et donc, on les a recontactés. Et un des deux étudiants a continué en stage avec moi sur GEB toute l'année dernière. On avait beaucoup d'observations autour de cet asso. On a fait plein d'entretiens. Et on est parti de cette association, des observations qu'on avait faites avec les bénévoles et puis les personnes qui recevaient notamment de l'aide administrative et des cours de français. Et là, après, on a étendu et on est allé voir tous les partenaires et les autres assos de Saint-Brieuc. Et donc là, c'était tout à fait un autre modèle que le modèle rennais. Avec des assos donc moins nombreuses, parce que c'est normal, c'est une plus petite ville, mais aussi une intervention très forte de la ville en faveur de la question. Alors, à Rennes aussi, hein, mais peut-être moins systématique et peut-être moins revendiqué comme tel.
Le projet scientifique, c'est, comme on le dit, c'est scientifique et toutes les personnes qui sont concernées par ces études-là, des fois, il faut vulgariser le message pour que ces personnes-là comprennent. Et donc, c'est là que moi, je rentre en jeu. Donc, on se dit, OK, il faut qu'on trouve des moyens plus faciles, plus simples. Il faut qu'on emploie des mots super tranquilles pour que ces personnes-là comprennent qu'en fait, cette étude-là, on l'amène pour vous et peut-être que vous avez droit à ça, que vous ne saviez pas et tout ça. On commence d'abord à expliquer aussi ce que c'est que l'exil. Parce que des fois, les gens ont tendance à se dire « exil, c'est la personne qui vient d'un pays à la guerre et donc qui fuit son pays et ça s'arrête là ». Et ce qui était bien avec l'étude de Kopeskem, on a carrément élargi le champ « exil », c'est toute personne qui n'est pas dans son pays d'origine.
Est-ce que vous sauriez dire avec combien de personnes il y a eu des entretiens, par exemple
Comme on a eu 3 projets en tout, à peu près en même temps, du coup, je ne sais plus dans quel cadre on a fait quoi. Mais oui, je pense une cinquantaine quand même, ouais. Entre les bénévoles et les jeunes personnes exilées.
Les nationalités représentées, elles, sont variées entre Afrique subsaharienne, de l'Est, du Nord et le Moyen-Orient. À Rennes, on compte souvent des Afghans et des Soudanais parmi les personnes rencontrées.
L'objectif avec les entretiens, avec les temps d'observation, c'était donc de produire de la connaissance sur les situations sociales de jeunes exilés bretons. Quels éléments majeurs vous en avez retenu de tout ce travail-là ?
Sur Redon, le travail, il a une orientation particulière qui était plutôt sur le lien et l'accès à un espace d'éducation populaire par des jeunes en situation d'exil. C'était un intérêt de l'association dont je parlais, qui s'appelle la FEDE. Eux ont un intérêt de s'adresser à tous les jeunes du territoire et n'y arrivaient pas forcément. Du coup, ce qui était intéressant à voir, c'est que en fait, les jeunes qui étaient en situation d'exil se sentent pas forcément très à l'aise dans les lieux qui peuvent paraître plus occupation temporaire, avoir aussi des identités militantes qui sont parfois assez marquées. C'est pas évident que ce soit pour des raisons politiques, mais c'est plutôt peut-être aussi parce que ça exprime pas toujours une très forte reconnaissance d'être dans un lieu qui est un peu déglingué, on va dire. Je pense que sur, par exemple, sur Dida, c'est observé aussi des fois où les jeunes parfois sont plus à l'aise dans un univers de cours qui est bien organisé. Et dans des espaces associatifs, des fois, c'est un peu organisé de manière plus floue. Après aussi, ce qui a commencé comme travail, c'est de réussir à voir quelle complémentarité il peut y avoir entre une association de jeunesse et une association qui est plus spécialisée dans le travail auprès des jeunes en situation d'exil qui sont hébergés. Par exemple, dans les formes aussi de recherche, un des premiers trucs qu'on a fait à Redon, c'est organiser une discussion entre la MICEP et la FEDE. Donc, eux se voyaient parfois dans des cadres plutôt institutionnels ou informels, donc ils se connaissaient déjà, mais ils discutaient pas forcément de quelle complémentarité ils pouvaient avoir entre eux. Sur Rennes, je pense qu'il y a quelque chose qui est autour des trajectoires qui sont réversibles. Peut y avoir des jeunes qui sont hébergés et qui du coup on pourrait avoir l'impression que c'est réglé, qu'ils sont dans une trajectoire d'insertion qui est positive, et en fait il peut y avoir soit pour des raisons administratives ou parce que les situations d'hébergement sont précaires, une forme de retour en arrière avec retour à la rue ou retour à chercher un hébergement d'urgence ou un hébergement solidaire.
Je pense qu'il n'y a pas de trop de spécificités des jeunes exilés en Bretagne par rapport à d'autres régions. Ce qui était intéressant pour nous, c'était de regarder la part de choix que les jeunes arrivaient à se créer dans des situations hyper contraintes. C'est des jeunes auxquels on assigne encore plus des parcours normatifs. Donc, ils arrivent en fonction du pays d'origine, en fonction des raisons pour lesquelles ils ont vécu l'exil, en fonction des études qu'ils ont suivies ou pas avant, etc. Ils ont tout un tas de savoirs. Et très souvent, une fois qu'ils sont là, on ne tient pas du tout compte de ces savoirs et on leur dit « vous allez aller vers tel et tel métier parce que c'est là qu'on a besoin » ou bien « vous allez habiter à tel et tel endroit et de telle et telle manière, etc. » Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment les personnes composaient avec ça et arrivaient plus ou moins facilement à donner du sens à ces parcours-là qui leur sont en partie assignés, ou bien à se trouver des marges de manœuvre, quitte à pas du tout respecter le cadre qu'on m'a donné, et puis faire autre chose, quoi. Et donc, c'était hyper intéressant de voir que des personnes qui peuvent être perçues par les pouvoirs publics comme indésirables, pour une partie d'entre eux et elles, et puis désirables si elles se conforment à un modèle, ces personnes pouvaient apporter plein d'autres choses et faire plein d'autres choses dans leur territoire, dans leur association, etc.
Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur une des personnes avec qui vous avez fait un entretien pour illustrer ces propos-là ?
Alors, moi, je pourrais donner l'exemple de Fardina, qui a un exemple peut-être un peu hors norme, mais justement, c'est intéressant. Donc, qui a 35 ans, je pense, maintenant. Fardina, elle vient d'Afghanistan. Elle est médecin. Elle a fui les talibans parce que sa famille était en danger, son père a été assassiné par les talibans. Et puis de toute façon, elle ne pouvait plus exercer la médecine, donc elle est partie. Et donc en arrivant ici, c'est quelqu'un qui parle déjà 5 langues. Elle avait fait un parcours d'études en Inde, etc. Et donc en arrivant ici, elle a été assez bien prise en charge par les pouvoirs publics. Elle a eu assez rapidement une proposition d'hébergement. Mais par contre, elle avait vraiment du mal à faire reconnaître la singularité de son parcours. Donc on lui proposait des cours de français, mais pas forcément très adaptés, donc pas très longs. Et donc il ne lui permettait pas d'obtenir un niveau de français suffisamment important pour pouvoir soit reprendre des études, soit réexercer la médecine. Et si elle avait accepté de se plier et d'aller faire du service à la personne, par exemple, elle aurait trouvé du travail tout de suite. Mais elle, avec tout le background qu'elle avait, elle voulait pas ça. Elle voulait réexercer la médecine ou bien faire une thèse en santé publique. Et donc, grâce aux échanges, à la rencontre d'Angèb, etc., elle va aller en Master 2 de santé publique l'année prochaine. C'est bien parce qu'elle a reçu de l'aide ici, à Dida, avec un certain nombre de bénévoles. Et puis avec nous aussi, on l'a embarqué dans plein de trucs. Elle a réussi à plaider la cause de sa maman qui était restée à Kaboul, qui était en grand, grand danger. Et je sais depuis hier que la maman, ça y est, elle arrive à Paris. Donc ça y est, elle est enfin en sécurité. Tout le monde va respirer, je pense. Quelque part, c'était ça un peu le donnant-donnant. Elle nous a apporté du temps. Elle nous a appris plein de choses, etc. Et puis nous, on a essayé, soit nous en tant que chercheurs, soit les bénévoles de Dida, mais qui gravitent autour de nous, d'apporter une petite pierre pour l'aider dans son chemin d'intégration ici, quoi.
سلام، من فردنیس احمدی هستم، از افغانستان هستم. تقریبا دو سال میشه که در فرانسه زندگی میکنم، در شهر رن. بونجور، جو مپل فردنیس احمدی، جوان دو افغانستان، جو سوی اغیلیان فرانس، ان او 2022، جابت ارن، دیپوی پرسک 12 آن، جو سوی میدوسون، دیپوی پرسک انان ایمی جو تخوایی avec la Croix-Rouge française à bénévole et j'ai fait autre activité aussi pour santé femmes les enfants en Afghanistan. Je télétravaille toujours bénévole aussi. Je suis très contente parce que je suis ici en France. Je peux faire la chose que j'aime. Par exemple, j'ai fait travailler dans mon métier, mais c'est encore le besoin en langue française. Mais après, j'espère commencer à travailler dans un hôpital et dans un centre de recherche parce que j'ai l'expérience de travailler avec chercheurs et avec santé publique. C'est ça.
Question suivante, quelles sont les forces et puis les contraintes de la recherche participative ? On comprend qu'il peut y avoir des liens peut-être particuliers qui se nouent avec les personnes qu'on étudie, d'une certaine façon.
Nous, on essaye de ne pas faire de la recherche extractiviste, d'être là, de regarder les gens comme si c'était des cobayes. Et donc, du coup, on fait une recherche où on part du principe que tout le monde est intéressant, a des savoirs, a un cheminement qu'il faut prendre en compte, qu'on peut tous s'apporter les uns les autres. Donc, en fait, c'est vraiment une autre manière de faire la recherche que de juste passer et puis interroger et repartir. Et ça interroge vraiment l'utilité sociale qu'on peut avoir. Et donc, quand on fait de la recherche action de ce type-là, on se pose plus la question, quoi. Alors après, c'est pas facile, hein, parce que d'abord, c'est pas très reconnu d'un point de vue académique. C'est pas facile parce que, comme disait Eric tout à l'heure, c'est pas toujours très facile de faire comprendre ce qu'on fait.
Je pense que la particularité de cette recherche, c'est plutôt justement aussi d'avoir accompagné des personnes exilées. Il y a aussi Zouaïna qui est restée assez longtemps, en fait 3 ans. Et mon travail, c'était surtout de l'accompagner, elle, pour qu'elle puisse faire la recherche comme elle le voulait. Donc il y a toute une partie de l'enquête qu'elle a fait en fait toute seule, parce que elle, ce qui l'intéressait, c'était la situation des étudiants. En fait, ça nous permet pas mal de choses aussi sur le rapport aux connaissances, parce que en fait, toutes les personnes que Zouaïna a rencontrées, nous, en fait, si on les avait contactées, on n'aurait pas du tout eu le même rapport que ça. Enfin, elle, en fait, c'est des étudiantes, étudiants qu'elle avait rencontrées parfois à l'université, qu'elle connaissait par des mouvements aussi militants. Et du coup, en fait, elle est devenue un peu experte de cette question des trajectoires des étudiants en situation d'exil.
C'est quand même particulier pour moi ce projet parce que je fais partie des jeunes exilés en Bretagne. Et donc le fait déjà de faire les entretiens avec d'autres personnes comme moi, la première des choses c'est qu'on a un truc en commun, tout, c'est vraiment, on est conditionné en fait. Je vais prendre vite fait mon exemple. J'ai une licence en publicité marketing dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire, mais quand je viens ici, je reprends la deuxième année en licence. Quelque part, ça veut dire, tu n'as pas notre niveau à nous. Donc ça déjà, c'est une contrainte qui m'est assignée en fait et je dois faire avec. Et quand j'ai changé avec une autre qui est kenyane, c'est pareil. Elle me dit, oui, je suis quitté au Kenya, je suis venu. Ils m'ont dit ça, pour avoir le titre de séjour, il faut faire ça ou il faut trouver tel nombre de temps. Et il y a cette charge mentale là qui est présente. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que moi, pour la première fois que je travaille dans ce cadre-là, je me rends compte qu'en fait, quelque part, je ne suis pas seul. Et puis dans les questions aussi qu'on posait aux personnes là, c'est qu'en fait, on cherchait aussi à savoir s'il y avait le lien encore avec la famille dans le pays d'origine. Et c'est là encore où tu trouves quelque chose qui est quand même spécial. Parce que toutes ces personnes exilées qui sont sur le territoire, ils ont toujours le lien avec la famille. Et tu te rends compte que la famille là-bas, elle compte sur toi. Et ça encore, je ne sais pas c'est quel type de pression, mais c'est quelque chose avec laquelle les personnes avec lesquelles nous devons agir tous les jours. Et tu apprends de plus en plus sur les autres personnes et tu vois la richesse chez l'autre. Et ce qui est déplorable, du coup, tu te dis, mais en fait, si les services de l'État ou je ne sais pas comment dire ça, public et tout ça, voulaient vraiment apprendre davantage sur ces personnes-là, peut-être qu'il y a des préjugés qui n'existeraient pas. Parce que la plupart du temps, on catégorise tout le monde. Exilé, ça veut dire direct, il ne parle pas le français, il ne sait rien de la culture. Pourtant, quand tu échanges avec ces personnes, c'est des personnes qui te parlent même du fromage, qui est, oui, qui est français, mais parce qu'ils ont, ils ont découvert, ils aiment, et ils te disent, oui, mais ça, c'est le fromage, mais chez moi, dans mon pays, ça s'appelle... Il y a un type de nom pour ça. Et tu vois quelque part que, bah, au final, il y a des choses qui se rattrapent à des chemins, à des croisées de chemins.
Quelles sont les pistes que vous avez identifiées donc pour améliorer l'accompagnement de ces jeunes exilés en Bretagne dans des objectifs notamment d'intégration?
J'ai la sensation qu'il n'y a pas forcément plein de liens entre les réseaux jeunesse éducation populaire et les réseaux autour de l'exil. Il y aurait sans doute possibilité de renforcer les réseaux qui sont mutuels. Après, il y aurait pas mal de pistes qui seraient du côté de l'action publique, donc forcément, c'est un peu banal, mais les trucs sur les papiers, c'est compliqué. Par exemple, ici, au bâtiment à modeler, il y a eu un campement pendant plusieurs mois où il y avait des jeunes qui étaient donc hébergés en tente et qui étaient pour partie des jeunes qui étaient demandeurs d'asile, mais que, vu que c'était des jeunes hommes, ils pouvaient pas être pris en charge pour des raisons capacitaires, donc c'est-à-dire que l'État... qui devrait théoriquement héberger ces personnes, ne le fait pas. Donc ça, c'est tout simple, hein, mais que l'institution respecte ses propres lois, ça pourrait être intéressant. Mais heureusement, à Rennes, il y a toujours un petit peu un filet associatif qui fait que tout le monde arrive à trouver des solutions pour les gens qui se retrouvent à la rue, mais c'est quand même pas très normal.
Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette affaire-là, c'est... le fait qu'on se dise on a besoin en France d'un certain nombre de personnes expertes dans tel et tel domaine. Et on a quand même rencontré plusieurs personnes exilées, par exemple médecins ou infirmiers, infirmières. Enfin, des gens hyper diplômés et capables, ou alors dans les métiers plus manuels, très très forts, en électricité, des choses comme ça. Et que, en fait, on ne sait pas tirer parti dans notre pays de toute cette expertise, de ce talent-là. Et en fait, on réfléchit à partir de supposés besoins plus importants du marché du travail, donc là, les métiers dits en tension. Mais voilà, après, on sait que, par exemple, on manque cruellement de médecins, on manque cruellement d'infirmiers, et on n'est pas capable de se dire, mais comment est-ce qu'on fait avec ces personnes qui sont là, et comment est-ce qu'on les intègre, et comment est-ce qu'on peut leur faire une place dans notre société? On les voit tout le temps comme soit des coûts potentiels, soit des gens qu'on va orienter sans prendre tout ça en considération. Et donc, en termes de pistes, peut-être faire des vrais bilans des capacités des gens quand ils et elles arrivent, parce qu'en fait, quand on leur pose la question, ils ont tous des idées de ce qu'ils pourraient faire pour se rendre utile à la société.
Sur le temps sur lequel ce projet s'est inscrit, donc c'est un an ou plus ?
Deux ans. La recherche, en fait, c'est toujours comme ça quand il y a des projets avec des financements spécifiques. Là, elle était annoncée comme durant 2 ans. Mais du coup, on travaillait déjà sur ces questions-là. Et puis, on a continué aussi à travailler après. Par exemple, ce matin, il y avait une soutenance d'une étudiante qui a travaillé sur les situations des personnes sans papier à Rennes. Du coup, c'est quand même toujours un intérêt qu'on a. Et puis, c'est un peu du quotidien aussi avec Dida. Et du coup, il y a au moins une troisième forme de recherche dans tout ce cadre-là, c'est ce qui a été fait au BAM, donc avec ExilArt. Avec le moral dans les potes, ça tape du pied deux fois plus fort, bang, parlant sous, parlant BPM. Enfin, à la fois pour nous, c'était une manière de poursuivre la recherche, mais c'était aussi partager ce qu'on avait fait pendant les 2 ans et avant.
C'était le 8 juillet 2023. L'événement ExilArt, et donc qui a réuni toutes les personnes en situation d'exil dans la ville de Rennes. Et ça a été fait autour d'un repas partagé ensemble. Et ce qui était bien là, c'est qu'il y avait, pendant ce moment-là, en fait, il y avait des différents groupes d'échange où on pouvait maintenant échanger avec ces personnes-là pour leur expliquer de façon plus simple, avec des mots plus terre à terre, en fait, ce à quoi ils avaient droit. Quelles sont les structures qu'ils pouvaient rencontrer s'ils avaient peut-être un problème de logement.
Il y avait des ateliers artistiques aussi.
J'avais un atelier de la langue bretonne. Il y avait un atelier d'art plastique. Il y avait un atelier d'écriture. Et ce qui était bien avec l'atelier d'écriture, c'est qu'ils pouvaient avoir après une retranscription. Et donc, on a eu du rap afghan. qui est tellement bien parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir tout le temps.
Ça a quand même pas mal marché et puis ça permettait de nous aussi se confronter à ce truc là de genre on demande du temps aux personnes et en fait des fois elles s'attendent aussi à ce qu'on leur apporte des choses, donc sur le rapport à la recherche c'est aussi intéressant. Après il y a eu de l'écriture aussi, plutôt écriture académique. Il y a eu des mémoires étudiants. Et puis après, c'est aussi un peu du quotidien, parce que du coup, c'est à la fois continuer à accompagner des étudiants qui s'intéressent à ça.
Et ça a permis aussi de préparer un projet de thèse qui a été obtenu par Guillaume Negril, qui travaille maintenant sur le rôle des pratiques artistiques dans la construction des parcours à l'âge adulte des jeunes exilés, qui va comparer donc la situation rennaise avec la situation de jeunes en Irlande. Et donc c'est vrai que tout le travail qu'il a fait avec nous, ça lui a permis de présenter un beau projet de thèse et d'être financé, et là il continue.
Ce reportage a été produit et réalisé par la CoreLab avec le soutien de la région Bretagne. Pour plus d'informations sur le projet que vous venez d'entendre et pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur corelab.org.